Il est 9h.
Il faut se creuser la tête pour sauver la planète.
Cette semaine, je vous amène à Paris, je vous amène au Salon des Maires et je vous amène à la rencontre de quelqu'un que j'ai grand plaisir à vous présenter. Il s'agit de Patrick Granziera, c'est le secrétaire général de l'UNAF. Patrick, bonjour. Qu'est-ce que c'est que l'UNAF ? Explique-nous.
Alors d'abord, c'est une belle maison qui a 80 ans aujourd'hui, hein, donc ça il faut le dire bien sûr. Mais surtout, et l'intérêt de l'UNAF, c'est que d'abord, elle défend les apiculteurs, elle défend les abeilles, et puis elle défend surtout la biodiversité. C'est le rôle essentiel, c'est-à-dire de promouvoir ce que nous faisons toute l'année, de promouvoir aussi les qualités des produits que nous vendons. C'est aussi défendre les produits, parce que malheureusement, on le sait, souvent le miel arrive un peu de je ne sais pas où, on ne sait pas comment c'est fait. Nous, par contre, ben, on va dire non, le miel, c'est le miel français, fait par les apiculteurs, et qui permet aujourd'hui à l'apiculture d'exister. Mais c'est aussi des combats permanents contre les phytosanitaires, on peut en parler, contre pourquoi pas aussi le frelon asiatique, peut-être qu'on va en parler tout à l'heure. C'est aussi ça le rôle de l'UNAF.
L'abeille est responsable de 35% je crois à peu près de notre assiette, c'est ça le chiffre.
S'il n'y a pas d'abeilles ou s'il n'y a pas de pollinisateurs, ça veut dire que les grandes surfaces, il n'y a plus rien à manger. Ça veut dire que les restaurants n'auront plus à faire manger. Ça veut dire qu'on peut mourir, on peut en tout cas avoir des problèmes de nutrition. Donc le combat, ce n'est pas uniquement pour faire plaisir à l'apiculteur, c'est surtout pour faire plaisir à l'humanité, de continuer à avoir de bons ingrédients, de bons légumes, de bons fruits. Et ça, c'est le rôle de l'agriculteur à qui on travaille. On pollinise beaucoup de champs, on pollinise beaucoup de fleurs, et grâce à l'abeille. Donc vous voyez que l'importance de l'abeille, c'est aujourd'hui, demain, après-demain, ça sera toujours le cas. Et si on ne fait pas attention à l'abeille, demain, on ne pourra pas manger, tout simplement.
Alors l'abeille est en danger, tu as commencé à le dire, on va rappeler les causes. Alors il y a les produits phytosanitaires, vous arrivez à essayer de faire action de plaidoyer auprès des pouvoirs publics, des syndicats agricoles pour dire regardez, l'abeille est nécessaire, elle est nécessaire à l'humanité, elle est nécessaire à l'agriculture, faites attention. Qu'est-ce que vous essayez de faire et quels sont les retours ?
Alors voilà une belle croisade. Ça, c'est des croisades qui depuis 80 ans à peu près. Tous mes prédécesseurs l'ont fait, on le fera bien sûr après. Mais ça, c'est un long combat, un combat difficile. Alors, c'est un combat parfois qui est compliqué parce qu'on s'attaque bien sûr à l'agriculture, parce que certains exagèrent simplement, alors que la plupart des agriculteurs font l'effort de ne pas utiliser trop de produits phytosanitaires. Le souci ne vient pas de l'agriculteur, comme je dis, ça devient des gens qui inventent des produits désastreux. C'est cela qu'il faut combattre. C'est pas l'agriculteur qui s'emmerde tous les jours à faire son champ ou ses cultures, pas du tout. D'ailleurs, le rôle de l'apiculteur, c'est de travailler avec l'agriculteur. Notre combat s'adresse à d'autres personnes. Par exemple, Bayer, pour le citer, bien sûr, des combats qu'on a gagnés contre eux, bien souvent, et qu'on gagnera encore. Mais c'est aussi des chimistes qui ne pensent pas que ce qu'ils font n'est pas bon, par exemple. C'est aussi des politiques, bien souvent, qui ne font pas le jeu. On l'a vu il n'y a pas très longtemps, je crois, dans une fameuse loi, hein, je ne vais pas la citer.
La loi du plomb, on a fait une émission qui a été consacrée avec l'interdiction des néonicotinoïdes responsables tueurs d'abeilles, hein, qui servent dans les champs de betteraves sucrières pour faire notre sucre et qu'on nous vendait comme indispensable alors qu'il y a des alternatives.
Et c'est là le problème. C'est là, on a présenté cette loi comme une loi formidable. Mais non, c'est pas une loi formidable, c'est une loi scélérate. C'est une loi qui tue les abeilles, mais qui tue aussi les pollinisateurs, mais qui tue plus ou moins l'homme, il faut le dire. D'ailleurs, on n'est pas les seuls. Quand on a commencé la campagne contre cette loi-là, on a été rejoints par des milliers de scientifiques, par des millions de citoyens, d'ailleurs, qui ont signé les pétitions, on les remercie, et qui a fait lever les choses, c'est important. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que ce n'est pas que l'apiculteur dans cette affaire-là. Ça veut dire que certains politiciens n'ont rien compris. Ça veut dire que certaines fédérations agricoles n'ont rien compris. Au lieu de se battre contre l'apiculture, il vaudrait mieux nous rejoindre à nous, nous écouter et voir qu'on travaille pour le bien-être de la population, non pas le contraire.
D'ailleurs, des agriculteurs font appel aux apiculteurs pour polliniser leurs champs, ça existe, ça c'est une pratique assez ancienne, je crois, dans les champs de tournesol, dans des choses comme ça.
Oui, il n'y a pas que tournesol, il y a tout un temps les vergers par exemple, c'est depuis tout temps, depuis qu'existe l'apiculteur et depuis qu'existe l'agriculteur, on a toujours travaillé ensemble, on a ce qu'on appelle des pollinisateurs, donc on vient à entre 50 et 100 ruches selon l'endroit, on pose des ruches, elles vont forcément butiner, forcément polliniser. C'est pour ça qu'on se bat contre ces produits chimiques, parce que ça a un non-sens. D'un côté, on demande de polliniser, puis d'un côté, on les tue. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a un truc qui ne va pas bien ? C'est pour ça qu'on se bat aussi, c'est pour ça qu'on n'est pas d'accord. Alors c'est vrai, des fois on le fait avec virulence, à mon goût, pas assez toujours, parce qu'il y en a qui comprennent que la force. Et on va continuer. On va continuer à dire attention, ce que vous faites c'est idiot. Ce que vous faites c'est peut-être dangereux. Et c'est vrai. Parce que ça ne tue pas que l'abeille, ça ne tue pas que les insectes, ça tue l'homme. Le taux de cancer a explosé. Pourquoi ? Parce qu'on mange du pain ou qu'on boit du vin ? Non, je ne pense pas. C'est à cause des produits chimiques. Et ça, c'est un combat que l'UNAF mène depuis pratiquement 80 ans. Alors on gagne à chaque fois. À chaque fois, on gagne. À chaque fois,
qu'est-ce que vous avez gagné, par exemple ?
Mais par exemple, si vous voulez, on a gagné par rapport à l'ANSES d'avoir des process d'analyse beaucoup plus courts, qui d'ailleurs ont mérité de l'être, parce qu'ils se sont aperçus que ce qu'ils faisaient n'était pas réellement bien fait. Et ça a permis de retoquer certaines autorisations. Un exemple. On en gagne comme ça tous les jours. Et c'est très bien, c'est bien. C'est le rôle aussi de l'UNAF de pouvoir dire un jour à demain, voilà, on a réussi quelque chose, on a réussi à protéger un peu nos apiculteurs, un peu nos citoyens, bien entendu, c'est ça le but, quoi. Voilà.
Alors l'ennemi de l'abeille, c'est le champ, c'est la grande culture en monoculture, et l'ami de l'abeille, c'est plutôt les bocagères, ce genre de choses.
Dans un rêve absolu, moi j'aimerais avoir des champs remplis de fleurs, avec des espaces consacrés aux oiseaux et aux fleurs. C'est le rêve de l'apiculteur, bien entendu, avoir de l'acacia, avoir du trèfle, avoir de la moutarde, avoir plein de choses comme ça, c'est le rêve. Bon, il ne faut pas exagérer, il faut nourrir aussi la population. Non, je crois plutôt qu'il faudrait qu'il y ait un plan raisonné de culture. Alors certes, les grands espaces de culture comme le maïs ou le blé, où c'est qu'il y a 200 ou 300 hectares, c'est à mon avis un non-sens. Mais ça, c'est autre chose, ce n'est pas mon rôle à moi. Mais c'est plutôt une relation entre l'agriculteur et l'apiculteur pour essayer que chacun puisse gagner sa vie, c'est important aussi, pour pouvoir un petit peu encadrer tout ça. C'est vrai que si on a par exemple des champs souvent renouvelés, avec des fleurs renouvelées ou des alimentations renouvelées comme le tournesol, comme le colza, et ainsi de suite, ça nous permettrait d'avoir une alimentation parfaitement adaptée, quoi. Voilà, ça c'est vrai.
Alors est-ce que le particulier qui a un jardin ou même un balcon peut aider les abeilles ?
Je dirais oui, c'est bien, c'est parfait. Bon, maintenant, il n'y a pas que ça, malheureusement, mais c'est bien. Je pense que si chacun a un pot de fleurs devant sa maison, c'est une bonne chose.
Quelles sont les fleurs qui sont les amies des abeilles ? Qu'est-ce qu'il faut planter chez soi, dans son jardin, pour aider les abeilles ?
Alors moi, je crois qu'il faut prendre soin. Et aujourd'hui, on a l'avantage d'avoir des renseignements un peu partout, soit à travers les pépinières, soit horticulteurs, pourquoi pas Internet. Je propose qu'ils prennent soin de mettre des fleurs mellifères. Et il y en a des milliers de fleurs mellifères aussi belles, aussi odorantes et aussi agréables pour nos abeilles. Mettez surtout des plantes mellifères, mais même si vous n'avez qu'un pot de fleurs, il faut mettre à la fenêtre, c'est parfait. D'abord, ça va vous permettre d'avoir des belles fleurs chez vous, et nous, nos abeilles, on va pouvoir vivre correctement, bien sûr.
Il n'y a pas un label, par exemple, chez les horticulteurs que vous prépareriez pour mettre qu'il y ait la petite étiquette sur les fleurs qui sont bonnes pour les abeilles, pour que les gens, quand ils achètent, voient la petite abeille en achetant leurs fleurs pour dire tiens, je privilégie celle-là parce qu'elle est bonne pour les abeilles ?
Non, je n'y ai pas pensé, peut-être que c'était l'idée, merci de mettre sur la route. Non, par contre, ce qu'on fait, et je vais en profiter puisque tu as le micro aujourd'hui, on a un label qui s'appelle Apicité.
Je voulais en parler, évidemment. Parce qu'en fait, on s'est rendu compte que l'abeille, en fait, se sentait très bien en ville, parce que finalement, les villes et les milieux urbains sont des endroits où il y a peu de pesticides, mais en tout cas moins de pesticides, et qu'elles s'y trouvent plutôt pas mal. Et on a goûté sur votre stand ici au Salon des Mers un miel qui avait été fait à Paris, et que j'ai trouvé, moi qui suis amateur de miel depuis mon enfance, qui est très bon, je tiens à le dire.
Alors, ça, c'est une belle idée. C'est une idée qui est née à peu près 15 ans, à peu près. On partit du principe simple. On s'est dit, bon, les mairies font des efforts énormes pour fleurir, entretenir leur commune. Qu'est-ce que nous, on pourrait apporter en plus pour les conseiller, pour les aider à faire mieux, et qui aurait un retour citoyen, un retour biodiversité important. Donc on a imaginé Apicité. Alors Apicité, c'est quoi ? C'est selon ce que la mairie ou la commune va faire d'événements, ou que va faire attention au niveau des produits, au niveau des fleurs, il va y avoir une évolution de une abeille à trois abeilles.
C'est un label où on va, comme les villes et villages fleuris, on a une, deux, trois, quatre fleurs, et vous, ce label Apicité. Voilà, c'est pas heureux, c'est api comme apiculteur, hein, API. Apicité, on va avoir une, deux, trois abeilles quand on s'engage. Et donc ça, c'est un appel à tous les maires de France. Renseignez-vous sur Apicité pour essayer de faire les choses bien pour les abeilles et pour les enfants de votre ville.
Et donc Apicité maintenant est connu, mais maintenant aussi on a depuis 20 ans ce qu'on appelle ASE, qui est donc Abeilles Sentinelle Environnement, qui est en fait un programme qu'on a mis en place depuis 20 ans, qui permet à vos entreprises, mais aussi aux collectivités, de faire ce qu'on appelle d'un rucher pédagogique au sein d'une commune, au sein d'une entreprise, et qui permet de sensibiliser les salariés, les citoyens autour de l'abeille, mais autour de la biodiversité. Et là, à l'intérieur, ils voient par exemple 3 ou 4 ruches où ils peuvent intervenir, soit devenir, pourquoi pas, prendre des cours d'apiculture et voir un petit peu en réel. Et ça, c'est un deuxième domaine pour l'apiculture qui permet, je dirais, de sensibiliser, de développer l'idée de protéger nos abeilles.
C'est vous qui venez avec un rucher école, c'est pas la ville qui va acheter quelques ruches,
hein. Si, justement. Le programme est là, c'est vrai.
Donc en fonction... Qui c'est qui s'en occupe des ruches, hein?
Voilà. Alors en fonction, je prenons un village qui a 2000 habitants, il veut faire un rucher pédagogique. Nous, on va amener les ruches, on va amener l'ensemble de la documentation, et on va amener surtout un apiculteur référent qui va venir, lui, s'occuper des ruches. Donc la mairie ou la collectivité ou l'entreprise n'a qu'une chose à faire, nous donner un espace pour mettre une ruche ou 2 ou 3 ruches à l'intérieur, et l'apiculteur va venir. Mais il ne va pas venir uniquement pour s'occuper des ruches. Il va venir plusieurs fois par an, voire tous les mois s'il le faut, pour faire de la sensibilisation, faire de la découverte de l'apiculture, faire une formation sur l'apiculture, diversifier les enfants, faire goûter du miel, faire voir un petit peu comment il est. Et une fois par an, pendant 3 jours, on a les Happy Days qui sont en fait une découverte assez sensationnelle pendant 3 jours, où on va discuter de l'apiculture, de la biodiversité, on va goûter du miel, on va fabriquer des petites ruchettes, enfin bref, toute une animation autour de l'abeille.
D'air en air, l'apiculteur se meurt. Il a eu son heure, il a fait son beurre. L'apiculteur. D'air en air, l'apiculteur effleure la fin du labeur. Happy, happy culteur. Dans une autre vie, les marguerites s'effeuillent de ralenti. Personne n'est vainqueur. Les proies, les prédateurs savourent le nectar d'une pomme d'api. Happy, happy culteur. L'heure, c'est l'heure, on n'est pas d'humeur à verser des pleurs. Fiers sont les ouvrières, le jour un tailleur, le soir guépière. Quand la mort vous susurre des serments veloutés, que rien n'est moins sûr, n'aura plus d'importance ni la chaleur, ni les piqûres. Happy, happy culteur. Happy, happy culteur. D'air en air, l'apiculteur se meurt. Trouve l'interrupteur. Une oasis, vous allez border des panniers. Que la splendeur n'effraie plus. Happy, happy culteur. Happy, happy culteur.
Alors nous sommes de retour avec Patrick Graziera, donc secrétaire général de l'UNAF, l'Union Nationale des Agriculteurs Français, apiculteurs français, et président d'ailleurs de l'abeille Gasconne aussi, hein, on va peut-être en parler. On a parlé de tous ces dangers, entre autres dus à l'agriculture. Il y a aussi quand même cette histoire de frelons qui n'est pas. Il y a eu le varroa aussi qui a été un pou, qui a été assez terrible pour l'abeille, lui aussi qui est venu d'ailleurs. Et il y a le frelon. Alors quel est l'impact de ce frelon asiatique, hein, pas le frelon frelons européens, sur les ruches et sur le travail des apiculteurs actuellement ?
Alors voilà un grand sujet. Je crois que tous les amis apiculteurs qui nous écouteront aujourd'hui savent ce que c'est que le frelon asiatique, les citoyens un petit peu moins. Le frelon asiatique d'abord a apparu en France, malheureusement en sud-ouest, en 2003-2004. On a commencé à nous à dire attention, il est en train de manger toutes nos ruches.
Et il est arrivé, on peut le dire, avec des poteries qui sont arrivées à Bordeaux pour faire de la décoration, poteries qu'on aurait pu très bien fabriquer en France. Nos emplettes ne sont pas que nos emplois, c'est aussi l'air que l'on respire et c'est aussi à cause du climat et des transports. Et c'est aussi tout un tas de cochonneries qui arrivent comme ça, en scrud, comme on dit, dans les cargos.
Ouais, ça je suis d'accord. On aurait pu s'en passer largement. Alors ce que je voudrais dire pour continuer, bien sûr, nous on a crié, attention, les abeilles sont en danger. On le voit, les frelons nous mangent les abeilles. Alors certains, édiles français dans la recherche, on dit c'est rien, il va disparaître, dans un an il sera pas là. Oui, tu as raison, 25 ans après il a disparu puisqu'il a conquis pratiquement toute la France, voire une grosse partie de l'Europe aujourd'hui, et ça va s'arrêter. Donc ça c'est un vrai problème. Pourquoi? Parce que le frelon ne fait pas que manger l'abeille, il a fait crever de faim, parce qu'en se mettant devant la ruche, il empêche, bien sûr l'abeille n'est pas folle, elle n'a pas envie de mourir, elle empêche l'abeille de mourir, de se nourrir et d'aller nourrir leur congénère, et donc elle meurt de faim. D'ailleurs la plus grosse mortalité que nous avons aujourd'hui, c'est parce qu'elle meurt de faim. Bien sûr que le frelon est une catastrophe, mais elle meurt vraiment de faim. Donc c'est là-dessus que l'on dit aujourd'hui, il faut un combat général. Alors les apiculteurs font ce qu'ils peuvent. Il faut même au-delà de ce qu'ils peuvent. Les pauvres, moi je les plains parce que je suis aussi apiculteur, c'est une grande catastrophe, mais on n'a pas de moyens. Mais ce n'est pas que des moyens financiers, c'est des moyens aussi de communication, comme on le fait aujourd'hui avec toi. C'est aussi des moyens de communication au niveau du civil, au niveau des citoyens. Alors c'est vrai que plus en plus on en parle, tant mieux. Mais ce que j'aimerais, c'est que ce soit les élites qui puissent le prendre en main. Je vois un exemple. Avec le sénateur Massé, on a passé une loi, l'UNAF a passé une loi sur le frelon. Elle a été votée dans les deux chambres à l'unanimité. Ça fait un an qu'elle est passée. Mais j'ai l'impression que quelques fonctionnaires ont du mal à faire les décrets d'application. Et je crois savoir que les décrets qu'on attend ne seront pas le reflet de la loi. Ça va bien nous énerver et je crois qu'on va partir en combat sérieux là-dessus.
Alors c'est quoi cette loi dans les grandes lignes ?
Alors les grandes lignes, c'est simple. Les grandes lignes, c'est l'obligation de détruire les nids de frelons, qu'ils soient dans un espace privé ou collectif, c'est important, alors qu'autrefois on n'avait pas le droit de le faire dans l'espace privé. Ça sera la loi. Le deuxième point fort, c'est donner des moyens d'organisation pour la lutte contre le frelon. C'est aussi des moyens de lutte au niveau généralisé, de faire des piégeages, par exemple, au niveau des fondatrices, chaque année, mais dans des espaces énormes. Parce que ce n'est pas qu'on va faire un piégeage de fondatrices uniquement dans ce secteur, il faut le faire à l'échelle nationale, si on n'arrivera pas. Donc voilà un exemple. Mais c'est aussi...
Alors c'est central, hein, ce piégeage des fondatrices, ça se joue en février-mars à peu près, quand les futures reines sortent. On vous propose, vous coupez une bouteille en plastique, vous coupez le goulot. Ah non, vous ne faites pas avec ça, vous ? Moi, j'en piège plein comme ça.
Non, surtout pas. Alors.
Ah, super.
Alors là, je vais dire non, tant pis. Je sais qu'il y en a qui... Non. Pourquoi ? C'est pas que ça ne marche pas pour le frelon. Mais le problème de la bouteille, c'est que ça prend aussi d'autres insectes à l'intérieur. Donc je dis aujourd'hui à tous les gens qui veulent participer, prenez des pièges sélectifs. On n'est pas obligé d'acheter dans le commerce, mais simplement protéger. Faites un grand grillage où les abeilles peuvent partir, mais pas les frelons, par exemple, d'accord ? S'il faut vraiment faire du sélectif, pourquoi ?
Moi, j'ai pas d'abeilles dans mes trucs. J'ai que du frelon et quelques papillons nocturnes.
Oui, mais tu les vois pas. Il peut y avoir aussi des mouches, il peut y avoir un tas de... Tu vois ce que je veux dire ? Donc, c'est un peu dommage. Parce que ce qu'il faut qu'on chope, c'est surtout le frelon asiatique. Le reste, on n'en a rien à faire, d'accord ? Donc, j'insiste là-dessus, quand on fait un piégeage, vraiment faire attention à faire un piégeage sélectif.
Tu as dit... Donc, un grillage, c'est quoi le diamètre ?
Je ne sais pas, honnêtement, je sais pas, il y a tellement de diamètres possibles, mais bon, il faut y veiller, pas de souci. Il y a des pièges, par exemple, qui sont faits avec du plastique, qui sont bien faits, avec des orifices parfaitement adaptés. C'est ça qu'il faut utiliser. Et ensuite, il ne faut pas les mettre n'importe où. Ça ne sert à rien de mettre des pièges partout. Il faut être dans un endroit où on sait qu'il y a des ruches, on sait qu'il y a de bord des ruches, on sait qu'il y a eu déjà des frelons. C'est là-dessus qu'il faut le faire.
Mais... Et près de plantes dans lesquelles ils vont ?
Oui, alors, bon, il faut savoir que, par exemple, la fondatrice, qu'est-ce qu'elle cherche ? d'abord elles cherchent du sucre pour se développer. Alors il y a une plante endémique qu'on connaît, c'est le camélia.
Si on sait qu'il y a des camélias, ça vient de Chine, oui. Donc c'est pour ça que le frelon va souvent sur les plantes originaires de Chine.
Absolument, voilà un exemple parfait d'une lutte intégrée, on peut dire. Donc c'est vrai, dès qu'il y a un camélia pareil, bon là ils vont dans un piège, elles vont y aller. Mais pas que, elles vont sur des endroits de sucre très, très, très sucré, parce qu'on a vraiment besoin pour se développer. Donc il faut faire un piégeage de printemps qui démarre sur les régions. Chez nous, c'est à partir du 15 février jusqu'à environ fin avril, début mai. On ne sait pas, d'accord ? Nous, ce qu'on fait, par exemple, dans nos communes, on met un piège tous les 300 mètres, par exemple. Et là, on s'aperçoit qu'on a une prédation qui descend de 10-15%. C'est déjà bien. Mais si on le faisait au niveau national, ou même au niveau départemental, on aurait des résultats. Le problème, c'est que la nature a horreur du vide. On le fait d'un côté, mais si on le fait d'autre côté, ben les frelons vont venir, on les met d'accord. Donc j'insiste là-dessus, faire un piégeage important. Mais que, il n'y a pas que, il faut continuer le piégeage toute l'année. Parce que les frelons vont commencer à arriver vers le mois de juillet, mois d'août à peu près, et ils vont continuer jusqu'au mois de novembre, décembre. Le réchauffement climatique fait que les températures, vous savez bien, il y avait encore quelques jours, il faisait 22 degrés dehors. Donc il y a des fleurs qui reviennent, il y a des phtrelfes qui reviennent. Et automatiquement, le frelon a de quoi manger. Donc il survit. Et c'est ça le souci. Donc il faut continuer à piéger tant que c'est possible. Moi, nous, on piège toute l'année, même en décembre, on continue à piéger. Parce que c'est ça qui est important. Moi, je veux dire qu'au niveau des citoyens, d'ailleurs, on va intervenir, le Lions Club nous a proposé de faire une réunion nationale pour présenter les différents modèles de piège, différentes modalités de piégeage. On va le faire, parce que c'est un appel à citoyens, pas uniquement comme projet d'agriculteurs. Je sais qu'il y a beaucoup d'agriculteurs qui le font, avec nous, beaucoup d'apiculteurs, bien entendu, mais c'est un projet de citoyens. Si on y arrive, je crois qu'on aura peut-être quelques résultats.
Alors quand on a trouvé la grille, on le dit rapidement, moi ma recette, tu vas me dire si elle est bonne ou pas, je mets de la bière brune, du sirop de cassis et un peu de vin blanc pour qu'il n'y ait que le frelon asiatique, m'a-t-on dit.
Alors c'est une bonne recette, elle marche bien, elle marche bien à étudier. Nous ce que l'on fait après cette période, je dirais, des fondatrices, entre le mois d'août jusqu'au novembre, du miel frelaté, du fiel perdu. Et le miel, alors là on en prend des centaines, des dizaines de milliers avec le miel que l'on pourrait jeter par exemple. Voilà. Donc il y a deux périodes, d'appât.
Bon, la conséquence de tout ça, c'est que les apiculteurs, être apiculteur aujourd'hui en France, c'est compliqué, alors que c'est un métier, je crois, qui plaît chez les jeunes, chez beaucoup de gens qui veulent revenir à la nature. C'est un métier qui plaît. Où en sont les agriculteurs actuellement en France? Est-ce qu'il y a un bon renouvellement des générations ou pas? Enfin, toi, tu as les chiffres, tu as la vision. Je serais content que tu la partages avec moi et que tu me montres, au-delà de ce qui arrive à l'abeille, ce qui pèse aussi sur les agriculteurs.
Alors, ce métier est fabuleux. On est piqué par l'abeille. Hein. Moi, j'ai été piqué grâce à ma fille, donc c'est comme ça que j'ai connu l'apiculture. Je dirais que faire le métier d'apiculteur, c'est être d'abord passionné. On ne peut pas faire ce métier uniquement que pour récolter du miel, on n'a rien à faire, on est bien d'accord. Mais c'est avant tout une vie particulière, une vie d'attention, une vie de passion, une vie de merveilleuse qu'on voit avec l'abeille. Puis d'ailleurs, qui nous donne un petit peu l'enseignement de la vie de tous les jours. Comme je disais il n'y a pas très longtemps à nos charmants politiciens, si vous viviez comme la ruche, on serait moins emmerdé. Donc ça, c'est pour passer à autre chose. Alors, bien sûr, devenir apiculteur, c'est sortir un petit peu du train-train habituel. C'est d'avoir une idée et d'avoir un but dans la vie. Pas uniquement faire du miel, on peut faire plein de choses avec ça. Ne serait-ce que déjà protéger l'abeille, d'accord? Bien sûr qu'on peut en vivre. Alors, ça dépend comment et pourquoi. Qu'est-ce qu'on peut faire dans la ruche? On peut faire du miel, pas que. On peut faire de la propolis, pas que.
Propolis qui est quelque chose de magnifique, si vous pouvez l'avoir chez un agriculteur bien concentré, ça soigne les plaies, les maladies, c'est antiviral, c'est très très bien.
Alors moi je dirais que les produits de la ruche sont un trésor de la vie, vraiment le trésor, parce que d'ailleurs c'est un peu ce qu'on dit quand on fait la première mielée, le mielée, que le miel coule, on dit c'est de l'or, mais c'est pas faux, parce que c'est tellement beau, et à l'intérieur il y a tellement de possibilités, de capacités, de nourrissement, mais aussi de soins. Parce que tu parlais tout à l'heure du propolis, mais par exemple, le miel, il soigne les plaies. Tu as par exemple un CHR à Limoges qui fait ça depuis 20 ans, qui soigne les grands brûlés de France, par exemple. Et ça, peu de gens le savent. Donc le rôle de l'apiculteur, c'est de participer à cette vie citoyenne, d'amener des solutions importantes de nutrition. Bien sûr, de gagner sa vie normalement, ça c'est possible, bien entendu. Un apiculteur gagne sa vie correctement. S'il fait ce métier intelligemment et correctement, il va en vivre, il n'y a pas de problème. Mais d'abord, il faut qu'il se forme, qui va être dans un rucher école, par exemple, pour se former pendant un an, il va apprendre les bases, et peu à peu, il va se former toutes les années encore, avoir plus, un peu plus d'informations, qui permettra de faire ce métier, un métier par excellence, bien entendu. Mais une fois que je le dis aux jeunes apiculteurs, une fois qu'il sera rentré dans la marmite, il ne pourra plus ressortir, ça c'est vrai.
Mais c'est une passion quand même qui est difficile actuellement. Il y a entre autres, encore une fois, la concurrence souvent déloyale, parce qu'on trouve du miel qui est plus du sucre que du miel. On a vu, il y a eu plusieurs scandales comme ça sur des miels importés. C'est ça les plus grands dangers pour bien vivre de l'agriculture.
La réponse à ça, c'est faites vivre votre apiculteur localement, à côté de chez vous. Il ne vous coûtera pas plus cher, il sera de meilleure qualité, vous en ferez un ami en plus, donc c'est ça. Et si l'apiculteur a compris, il vend son miel à côté de chez lui. Le souci du miel importé, c'est surtout pour des très gros apiculteurs qui font des tonnes et des tonnes, bien entendu. C'est aussi des grandes surfaces qui ne jouent pas le jeu. Mais ça, que voulez-vous qu'on y fasse? On ne peut rien y faire. Par contre, on s'aperçoit depuis 4 ou 5 années que l'on fait de la promotion pour le miel français. L'achat du miel est en progression en France. Il n'est pas encore, pour nous, très important, mais on sent bien que les gens sont sensibilisés à faire vivre le miel français. Ça, on les en remercie, c'est important pour nous. C'est aussi un encouragement à continuer de faire de bonne qualité. Tout à l'heure, tu parlais de la propolis, on parle du pollen, on parle de la gelée royale, qui sont des bases de notre activité, qui peuvent rendre service à nos citoyens. C'est ça le rôle. Et quand un consommateur vient nous voir, c'est des questions qu'il pose. Il ne peut pas le poser dans une grande surface. Il a quoi? Il a un pot, on ne sait pas d'où ça arrive, on ne comprend rien. Alors quand il voit l'apiculteur, il dit, ouais, alors tu as du miel, oui, mais j'ai du pollen aussi. Ah mais j'ai le royal. Ah mais tu peux faire ça. Je crois que c'est des conseils. Je crois qu'on ne peut le faire avec l'apiculteur que si on veut conseiller aux gens, si on veut être proche de la population, si on veut leur donner des informations, c'est ça. Je dis aujourd'hui, consommateur que vous êtes, venez chez l'apiculteur, jeune qui voulait s'installer, formez-vous comme il faut. Parce que ce métier d'apiculteur n'est pas un métier par hasard. On ne se forme pas sur Internet, d'accord? Vous aurez des informations. Vous devez être formé, il faut être dans un lieu qui s'appelle Rucher École pour permettre aux gens de pouvoir être formés, quoi. Donc c'est là qu'on va réussir à avoir une bonne formation.
Ok. Est-ce qu'il y a un moyen de différencier par une méthode ou une autre un miel vraiment naturel ou un miel où on a mis beaucoup de sucre, de glucose dedans? Vous avez, on m'avait dit de chauffer une cuillère, mais en fait ça ne marche pas, je crois.
Non, je crois que malheureusement, il y a tellement de personnalités qui sont capables de frelater n'importe quoi que même à des spécialistes, c'est difficile, d'accord? Mais rapidement, celui qui a le vrai goût du miel, honnêtement, je vous assure qu'on le voit, le mauvais miel. Pourquoi? Parce que le miel qui est mal fait ou qui est additionné de sucre, on le voit au goût. Il est âpre, il n'est pas bon, il n'est pas goûté, il n'est pas succulent. Alors quand vous prenez un miel qui peut être goûté, vous le comparez, vous aurez vite fait de savoir s'il est bon ou mauvais, c'est certain.
Bon, mais on enjoint tous les maires de France de se renseigner auprès de l'UNAF là, pour ce fameux label apicité, hein, pour aider les abeilles.
Et abeilles sentinelles.
Et évidemment, on invite tous les auditeurs à lutter contre la lutte pour le frelon asiatique et à regarder la qualité du miel qu'ils achètent. Vous avez une actu, c'est le moment auto-promo de l'émission, Patrick Grandiera.
Alors il faut savoir que l'UNAF avec tous ses adhérents, on organise tous les deux ans un congrès apicole européen qui se situe souvent dans des villes différentes. Donc là, en 2022 c'était à Quimper, en 2026 ça sera à Lot-et-Garonne à Gien. Qui d'ailleurs avait eu la joie d'accueillir le premier congrès en 2012. Donc ça veut dire qu'en 2026, on va faire le congrès européen de l'apiculture. On va réunir non seulement les apiculteurs, bien sûr, surtout les apiculteurs, mais aussi les fournisseurs de matériel, mais aussi les conférenciers, des gens qui viennent apprendre, des scientifiques qui viennent nous expliquer, des techniciens qui viennent expliquer les techniques. Mais c'est aussi le moment de rencontrer l'apiculture avec les citoyens, où les citoyens vont pouvoir goûter tous les miels d'Europe, par exemple. Il va pouvoir discuter avec pas mal d'apiculteurs, le pourquoi et le comment. Mais pas que, parce qu'on veut unir l'apiculteur avec les producteurs locaux, les maraîchers par exemple, pour bien faire comprendre aux citoyens que l'apiculture c'est aussi un monde général. C'est pas que nous dans l'apiculture, mais c'est l'ensemble du monde agricole qui ce jour-là, pendant 3 jours, vont se réunir, faire goûter du bon miel, déjeuner avec des bons repas du sud-ouest, bien entendu. On connaît bien le magret de par chez nous, par exemple, mais pas que, il n'y a que ça. Donc c'est aussi 3 jours de fête, 3 jours de découverte, 3 jours d'information, 3 jours, je dirais, d'instruction pour pouvoir savoir ce que c'est que l'apiculture en général à Agen. Donc ça sera le 1, 2, 3 octobre 2026.
Très bien, ben voilà, on habite tous sur la même planète et ce jour-là, à Agen, on habitera encore plus tous sur la même planète. En tout cas, on apprendra à se lier, se relier les uns les autres. Merci beaucoup Patrick Granziera. On rappelle, il y a un site internet évidemment pour l'UNAF. Si vous le cherchez, c'est unaf-apiculture.info. Ou abeillesentinelle.net aussi, qui est intéressant pour ce programme Abeilles Sentinelles. Merci beaucoup Patrick, au revoir.
Merci à toi, bien sûr, merci à tous, et puis venez nombreux au congrès, et surtout mangez du miel s'il vous plaît, mangez beaucoup de miel et de chez l'apiculteur à côté de chez vous.
L'ours et la carotte, écoutable sur internet. À la semaine prochaine.